va juste faire l'introduction. Raphaël Planas, naturaliste. Aujourd'hui, donc, on est dans les hauteurs de Fort-Calquier, plutôt vers Bannon, pour découvrir éventuellement le Brame des Cerfs.
Oui, alors on a bien essayé de vous perdre un peu, mais je vois que vous avez bien suivi la route. Oui, nous allons essayer d'aller écouter le brame du cerf. C'est le grand moment de l'automne. Nous sommes au fond d'un vallon, sur le bord d'un champ, et puis nous allons rejoindre le lieu de brame, donc les places de brame. En fait, les cerfs brament en automne, parce que c'est la saison de la reproduction, on en parlera plus tard, mais les cerfs ne font que suivre les biches pendant toute la soirée, pendant toute la nuit et jusqu'au matin. Donc le lieu de brame dépend de là où vont les biches, n'est-ce pas ? C'est un peu comme, on va voir, il y a beaucoup d'analogies avec les rapports humains.
D'accord.
Alors, c'est soirée de pleine lune, donc on a une bonne luminosité pour pouvoir marcher dans la nuit. À l'automne, les cerfs se mettent à bramer, donc comme je disais, parce que c'est la saison de la reproduction. Les femelles deviennent fécondes parce que les jours diminuent. Et donc ça crée un changement hormonal chez elles, en fait dû à la mélatonine, enfin bref, c'est toute une histoire d'hormones. Mais elles deviennent fertiles et elles vivent en harde, donc en grands groupes de femelles. Les mâles, eux, pendant toute l'année, ils vivent seuls dans les bois. Et à l'automne, ils rejoignent les femelles et essayent de retrouver leur harde, donc leur groupe de femelles, pour se reproduire avec le maximum d'entre elles. Il peut y avoir jusqu'à 20 femelles dans une harde. Et donc, quand ils rejoignent leurs femelles, bien sûr, les vieux mâles savent comment ça se passe, donc eux, ils sont déjà avec les femelles au mois d'août. Mais les jeunes mâles, eux, sentent le changement hormonal dans l'air à partir du mois de septembre. Donc, ils viennent près des hardes pour essayer de trouver eux aussi une femelle. Et à ce moment-là, il y a la concurrence qui commence. Donc, le mâle qui a sa harde doit la défendre et doit faire que les femelles s'éloignent le moins possible de lui. Donc, il les suit toute la soirée lors de leur déplacement pour se nourrir. Et puis, il continue à crier pour essayer de les séduire au maximum et faire qu'elles ne s'éloignent pas de lui. Les jeunes mâles, eux, essaient de rentrer dans la harde, de faire sortir des femelles pour essayer de se reproduire avec elles.
Et par contre, après, vous disiez, en fonction des jours qui se rafraîchissent, où il fait plus froid, l'embryon ne se développe pas.
Voilà, c'est une reproduction un peu particulière. En fait, le brame, ça prend, donc cette période de reproduction prend un mois et demi. Si les cerfs devaient faire ça au printemps, ils commenceraient au mois d'avril et la reproduction finirait au mois de mai. Plus 3 mois de gestation, on se retrouvait en mai, juin, juillet. On les entend là, parce que vous avez entendu un cri, non ? Pas encore. Voilà, on commence à les entendre au loin. Donc si cette reproduction devait avoir lieu au printemps, ça serait beaucoup trop tard quand le jeune naîtrait pour qu'il puisse être assez fort pour passer l'hiver. Donc la reproduction a lieu à l'automne. Le développement de l'embryon est différé jusqu'au printemps. Quand les températures remontent au printemps, le petit se développe très tôt et donc il va naître au mois de mai. Ce qui fait qu'il a tout le printemps et tout l'été pour grandir et pour être assez fort pour affronter l'hiver. C'est une stratégie de reproduction utilisée par d'autres animaux comme les chauves-souris, comme les chevreuils. Par exemple. qu'on se rend compte de la pollution sonore nocturne. On se pose un petit peu pour essayer d'écouter au milieu d'un champ de sauge sclaré qui est un fixateur de parfum qui a une odeur très très marquée, un peu citronnée là. Donc on est au parfum. Et du coup nous sommes masqués aussi par cette odeur.
C'est ça.
Voilà, donc là il y a un mâle qui brame dans notre direction. En fait, ils sont obligés de se reposer. Plus la saison avance, plus ils sont obligés de se reposer entre deux phases de brame. Le mâle, il va perdre entre 20 et 30% de son poids au cours du brame parce que il prend pas le temps de manger. En fait, il ne fait que suivre les femelles. Il fait que les regrouper, que surveiller, et donc il prend pas le temps de manger. Donc il perd presque un tiers de son poids. Il vit d'amour et d'eau fraîche, en fait.
Dans combien de temps ?
Ça commence en général fin septembre, ça dépend des années, ça dépend de la météorologie. En fait, les cerfs sont des animaux qui vivent normalement dans des milieux ouverts. Ils sont dans les forêts aujourd'hui parce que ils sont chassés par l'homme et parce que... Et parce que leur territoire s'est émietté. Mais... Le soir, les femelles sortent pour manger dans les milieux ouverts. Donc on dit que le brame commence quand les glands tombent par terre, puisqu'en fait les femelles commencent à bouger pour aller chercher des glands, pour aller chercher de la nourriture. Et donc quand elles bougent, les mâles sont obligés d'avoir plus de surveillance. Les mâles qui sont revenus sur le territoire recherchaient leur harde. Et du coup, les jeunes mâles sentent aussi le changement hormonal et viennent faire la concurrence et essayer de se reproduire avec une femelle. Donc ils viennent déranger le groupe, et c'est à ce moment-là que le mâle se met à bramer. Bien sûr, le cri est plus ou moins fort. Plus ou moins long.
Il y a une chouette aussi qui
s'y met. Oui, il y a une chouette ulotte, oui. Et ça démontre la virilité du mâle. Le tout étant d'impressionner. En fait, ils veulent surtout pas se battre ou perdre de l'énergie à se courir les uns derrière les autres. Donc ils essayent de dépenser moins d'énergie en criant et en impressionnant les autres pour les faire reculer un peu et qu'ils laissent la harde tranquille. Quand ça ne marche pas, les deux mâles se concurrencent avec la voix, comme on pourra l'entendre tout à l'heure, je pense. Et si ça ne marche pas encore, ils se montrent leur force, donc ils essayent de casser des petits arbres, de faire des courses pour montrer qu'ils sont plus puissants, qu'ils ont plus d'énergie.
Ils s'affrontent avec leur bois aussi, non ?
Alors, éventuellement, si tout n'a pas marché, toutes les autres démarches n'ont pas marché, si vraiment la provocation est trop importante, là, ils vont se mettre face à face. Ça va passer par tout un tas de démarches d'intimidation avant d'en arriver à rentrer l'un dans l'autre. Là, on est sur la fin du brame, donc ils ont plus beaucoup d'énergie pour et beaucoup moins d'hormones. Ils se sont reproduits déjà avec quelques femelles, donc ils sont un peu calmés. Les cerfs ont comme attribut pour pouvoir séduire les femelles donc leur voix, mais ils ont aussi leur bois. Donc les bois tombent tous les ans, repoussent tous les ans, et chaque année, tant que le cerf grandit de sa première, jusqu'à sa sixième année à peu près, les bois grandissent.
on croyait pendant longtemps qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle branche sur le bois intermédiaire, ça a dénombré le nombre d'années. En fait, on s'est rendu compte que c'était plus lié à l'alimentation et à la qualité de vie du cerf. Et que y a des cerfs de 6 ans qui peuvent avoir des bois extrêmement forts et extrêmement grands, alors que des cerfs de 8 ans ou 10 ans, parfois, si le territoire n'est pas bon, si l'année n'est pas bonne. En alimentation, du coup, les bois sont moins importants. D'autre part, un cerf, à partir de 10 ans, on dit qu'il ravale, c'est-à-dire que ses bois vont être plus petits. Donc c'est pas parce qu'on voit un cerf avec des petits bois qu'il n'est pas très âgé. Quand le cerf prépare sa soirée de brame, il va rejoindre une souille, donc un endroit humide, avec de la boue et de l'eau. Il va se rouler dans cette boue, il va frotter ses bois dans la boue, et ensuite il va arracher de la végétation autour, ce qui fait que ça va augmenter la taille des bois. Et donc ça le rendra d'autant plus impressionnant.
De quoi se nourrit le cerf ?
Alors essentiellement de végétaux. On va dire qu'à 60% ce sont des herbes, des plantes, des feuilles. À 20% c'est de l'écorce ou des jeunes rameaux. Et puis éventuellement, pour ce qu'il reste, ça peut être des graines, ça peut être un petit peu de bois, mais bon, c'est très très difficile à digérer pour lui. Donc voilà, il cherche essentiellement... On va se faire attaquer par des glands, c'est bien ça. Donc il cherche essentiellement de l'herbe. C'est pour ça qu'il rejoint les zones ouvertes la nuit.
Et au niveau de l'altitude, est-ce qu'il y a une altitude minimum ?
Non, avant il y avait des cerfs partout en France. Donc que ce soit au Moyen-Âge ou jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait des cerfs partout. La chasse a fait diminuer grandement le nombre de cerfs et aujourd'hui on est obligé de les réintroduire sur certains territoires pour en avoir. Ce qui fait qu'ils se sont cantonnés dans les zones où ils étaient les moins dérangés, donc plutôt en altitude maintenant, ou dans des territoires où ils ont bien été préservés, comme des grands territoires de chasse, comme la Sologne, ou les grandes forêts, comme la forêt de Troncé ou la forêt d'Orléans. Donc dans notre département, on les retrouve... dans peu de territoires, plutôt en altitude, donc dans partie nord et est du département, et puis un petit peu donc, dans les coins reculés, au-delà de, enfin, près de la montagne de Lure.
On a l'impression que... Est-ce qu'on peut trouver des cerfs dans les forêts de pins ? Il y a quand même des forêts, des arbres qui, où ils se sentent mieux ou pas ?
Les feuillus les intéressent plus, évidemment, parce qu'il y a plus de nourriture. Donc il y a des graines, il y a des fruits... ça leur convient mieux. L'autre raison aussi, c'est que dans une forêt de feuillus, il y a beaucoup plus de lumière qui passe entre les feuilles que dans une forêt de résineux, et du coup il y a un sous-bois, donc il y a des herbes sous les arbres, ce qui n'est pas le cas dans une forêt d'épicéas ou dans une forêt de sapins ou dans une forêt de pins, beaucoup moins, d'autant plus que le sol est acidifié par les aiguilles, donc les plantes ont d'autant plus de mal à pousser. Donc ils préfèrent effectivement les forêts de feuillus. Cela dit, dans notre département, on a quand même une majorité de forêts de résineux et ils sont quand même présents. On entend pas mal de bruit dans les feuillus juste devant nous. On va voir.
Est-ce qu'il y a des risques d'être chargé par un cerf si on est sur son territoire ?
Alors, quand on est sur son territoire et qu'il est plein d'hormones comme en ce moment, il a du mal à faire la différence entre est-ce que c'est un concurrent qui viendrait marcher à côté de moi ou est-ce que c'est un être humain. Mais il est très vite renseigné par notre odeur. D'autre part, cela n'est dangereux que s'il y a une confrontation directe, c'est-à-dire si on est sur la voie du cerf ou sur sa coulée, c'est-à-dire le chemin qu'il utilise constamment. Une coulée de cerf, c'est assez facile à repérer, déjà parce qu'il passe toujours au même endroit. Et d'autre part, par rapport à une coulée de sanglier, on a la végétation qui est bien enlevée sur 1 mètre ou 1,50 mètre de large, parce que le cerf ne veut pas abîmer ses bois. Au printemps, les bois sont mous à l'intérieur. Si jamais il se tape dans une branche, le bois est tordu, du coup. Et donc, ça devient très compliqué pour la reproduction. Beaucoup moins intéressant pour les femelles. Donc il fait très attention à passer dans des endroits dégagés. Voilà. Donc il faut éviter de se trouver sur un sentier qui paraît être fait par des animaux et qui est plutôt large. Voilà. Ce qui fait que quand on veut aller voir le brame du cerf, c'est bien de repérer le secteur de jour. Comme ça on n'est pas surpris. Et le cerf ne l'est pas non plus. mais très peu de chances de se faire charger par un cerf. Il faut vraiment aller au contact, se rapprocher de lui à quelques dizaines de mètres pour qu'il vous évince de son territoire. Ça veut dire être vaillant quand même, et puis ça n'a pas spécialement d'intérêt si ce n'est de lui faire perdre encore plus d'énergie que ce qu'il perd déjà pendant l'automne, et donc de provoquer chez lui une situation très compliquée pour passer l'hiver après derrière. Donc jouer sur sa survie, bon, voilà. Écouter le brame du cerf, c'est bien. Mettre les cerfs en danger. Alors, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un tout petit cri aigu là, ces écureuils.
C'était un écureuil ça?
Oui.
Oh, je savais pas qu'on allait écouter le brame de l'écureuil en même temps.
Les écureuils, c'est le gros bordel. Ils arrêtent ils arrêtent pas de râler toute la soirée. Ils sont toujours en train de se chamailler. Alors, j'ai un ami qui dit que c'est sûrement les femelles. Je vois pas pourquoi du tout.
Puis c'est celui-là encore. Les écureuils chahutent la nuit.
Oui. Oui, d'autant plus en ce moment où ils sont en train de ranger leur récolte pour l'hiver. Donc il y a du boulot, il y a plein de trucs à faire.
Ça circule, hein?
Oui.
Hein?
Bah, après les chasseurs.
Chasseurs et gens. Combien ils peuvent porter de...
Alors, les femelles ont un seul petit. Chez le chevreuil, parfois, il peut y avoir des jumeaux, mais chez le cerf, il n'y a toujours qu'un seul petit. Le petit, pendant les premières heures, ça peut durer jusqu'à une journée, il n'a pas d'odeur. Il ne peut pas être repéré par les prédateurs. La femelle mange tout de suite le placenta et elle le laisse au milieu des herbes et elle rejoint la harde. Donc en fait, elle sait que si elle s'éloigne, elle éloigne les prédateurs et les prédateurs ne pourront pas le repérer à moins de tomber dessus. Quoi. Dès qu'il peut se lever, elle l'emmène avec elle dans la harde. Donc un petit fan, hein, c'est blanc, face à des taches blanches, roux avec des taches blanches, là, comme Bambi, quoi. Voilà. Au niveau des recherches de nourriture, le mâle, il va manger aussi le velours qu'il y a sur ses bois. C'est donc une peau qui entoure les bois pendant leur fabrication, tant qu'ils sont mous. Et cette peau va tomber au mois de juillet. Donc le mâle va se frotter après les arbres parce que ça le démange. Et il va arracher ses bouts de peau, il va les manger parce que c'est plein de protéines aussi. Donc ça l'aide à se fortifier pour pouvoir tenir après pendant le brame. Donc rien n'est fait au hasard.
Donc une seule portée et combien de mois de gestation? 3 mois?
Oui, c'est ça.
Le petit fan, oui, quand il naît, donc il n'a pas d'odeur, il reste sur place tout seul, il ne marche pas tout de suite.
Ça va très très vite, hein. Il faut quelques heures pour qu'il arrive à se lever après, dès que donc, la femelle le laisse au départ et mange vite le placenta pour éviter que les prédateurs soient attirés. Elle rejoint la harde et puis elle vient le chercher assez rapidement. Voilà. La harde après sera composée de vieilles femelles qu'on appelle bréhaignes, donc qui sont des femelles qui ne se reproduisent plus, les grand-mères quoi, les filles et les enfants. Voilà, il y a beaucoup de sociétés matriarcales chez les animaux, ça fonctionne beaucoup comme ça. Les mâles, eux, donc dès que l'hiver est passé, ils vont s'éloigner. Ils deviennent très timides au printemps parce qu'ils perdent leur bois, donc ils se sentent un peu démunis. Et puis, donc, ils vont être très difficiles à voir à ce moment-là. Et après, donc, ils vont rejoindre les femelles juste au mois d'août. Voilà. Ils sont errants, ils n'ont pas spécialement de territoire. C'est les femelles qui ont un territoire et qui sont rejointes.
Rejointes, oui.
Par les mâles au mois d'août.
Au niveau de la vue, ils voient bien la nuit?
Pas plus que nous. Bon, voilà, après, ils ont l'habitude. Et puis, ils vont se fier à d'autres sens que les nôtres, enfin, que la vue, qui est notre principal sens utilisé. Donc, il y a beaucoup l'odorat. Et puis, l'audition qui est très bonne aussi. Voilà, ils ont les yeux qui sont quand même placés relativement sur les côtés. Donc, voilà, un peu comme les chevaux, ils vont savoir bien ce qui se passe autour d'eux.
Thank you.
il brame de temps en temps pour bien dire que c'est son territoire quand même. Mais tant qu'il n'y a pas plus de concurrence que ça, s'il peut économiser un peu d'énergie, il le fait, quoi. Donc c'est pour ça que c'est relativement calme tout de suite. Là, les femelles doivent être en train de manger, elles doivent pas trop bouger, donc il n'est pas super stressé. Et voilà, il surveille son truc, son troupeau de femelles. Alors les jeunes mâles vivent en groupe d'adolescents. Ils apprennent un peu la vie tous ensemble. Et donc, quand ils sentent qu'il y a une harde et qu'il y a des femelles en chaleur, ils essayent de faire sortir les femelles du groupe et de les éloigner pour pouvoir se reproduire avec elles. Donc il y a tout un jeu qui se met en place pour essayer de... Ils ont très très peur hein, du grand mâle, hein, mais pour essayer de pousser les femelles dans tous les sens et d'éclater la harde. Donc c'est vraiment là, à ce moment-là, que le mâle est très très stressé, le mâle dominant, puisqu'il ne sait plus où donner de la tête. Et en général, les jeunes mâles arrivent bien avec la vitesse, et eux, ils sont tout frais, hein, donc du coup, ils arrivent bien à choper une femelle ou deux. Voilà. Et les femelles, elles ne sont pas spécialement contre, en fait, hein, parce que bon, voilà, ce qui les intéresse, c'est de se reproduire, hein, donc bon, avec le plus beau mâle, c'est mieux. Se reproduire, c'est bien.
Donc un même mâle peut aller reproduire plusieurs, féconder plusieurs femelles.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Le grand mâle dominant, des fois il a des hardes de 5-6 biches, mais ça peut aller jusqu'à 15-20. Voilà. C'est un harem. Mm-hmm.
Et la durée de vie d'un cerf?
Alors le plus vieux cerf que j'ai connu, il avait 31 ans. Il y a beaucoup de bruit devant nous.
Mm-hmm. Oui.
Voilà, il était à Chambord, donc dans un lieu qui est relativement protégé pour la faune, voilà, avec une qualité de vie et une qualité de nourriture qui est très intéressante. Globalement, dans la nature, la durée de vie, elle est plutôt de 8-10 ans, grand maximum, voilà. Parce que ils vont rencontrer un chasseur, parce qu'ils vont rencontrer une voiture, parce qu'ils vont être malades. Voilà, les cerfs ont des parasites qui peuvent leur transmettre des maladies. Donc, ils ont une durée de vie qui est plutôt limitée.
Donc, le plus grand prédateur, c'est l'homme, surtout.
Essentiellement. Bon, aujourd'hui, on a d'autres prédateurs qui vont jouer sur les populations, mais qui vont s'attaquer plutôt aux vieilles femelles ou aux jeunes, qui sont les loups, qui reviennent sur les territoires. Il y a le lynx aussi, qui va avoir un impact. Et puis, certaines maladies, voilà, pour parler des facteurs naturels. Après, effectivement, le facteur humain, c'est celui qui touche principalement donc la durée de vie du cerf par des accidents ou par la chasse ou par une diminution de la qualité du territoire. On a une urbanisation qui est galopante en France avec donc un territoire qui devient de plus en plus artificiel et donc qui convient moins au cerf.
On parle beaucoup du loup dans notre département. Est-ce que le loup attaque aussi ses grands cerfs ou il se contente des brebis?
Non, le loup mange essentiellement des enfants. Donc peu d'impact sur la population de cerfs. Non, je plaisante. Le loup s'attaque aux bêtes qui sont les plus faciles à chasser. Il n'est pas fou, il n'a pas envie de perdre son énergie à courir après un grand cerf. Le trophée ne l'intéresse pas, ça c'est une vision humaine des choses. Le loup va s'attaquer soit aux femelles vieillissantes ou aux jeunes, mais il ne va pas du tout aller chercher le grand cerf qui est difficile à chasser, qui a des armes pour se défendre. Par contre, effectivement, le loup est en train de s'installer sur le territoire. Il y a des endroits où il est bien installé. Et puis, il va toujours chercher la nourriture la plus facile à prendre, quoi. Donc, si la nourriture la plus facile à prendre, c'est un troupeau, il va aller chercher dans un troupeau des individus faciles à chasser. Bien qu'il ait une vie plutôt sauvage et qu'il préfère chasser sur son territoire des bêtes sauvages. Ça brame un peu de nouveau encore. Si il trouve quelque chose de facile, il le prendra. Comme n'importe quel être vivant sur Terre, en fait, hein, on choisit toujours la solution la plus facile pour survivre. Que ce soit les lichens, les mousses, les champignons, ou les loups, ou les êtres humains. Donc les deux mâles qui sont face à nous se répondent. La voix étant donc un moyen de délimiter son territoire. Par, ben voilà, juste si tu m'entends encore, c'est que tu es sur mon territoire, donc éloigne-toi. Le but étant de s'impressionner. Et puis de prouver qu'on peut faire les meilleures vocalises. Donc ça passe par des toux, par donc un cri qui ressemble à une toux. Et puis donc en essayant d'avoir la voix la plus profonde et la plus. Et avec le cri le plus long possible. Toujours une histoire de mec, quoi.
Je ne peux pas s'empêcher ses commentaires.
Elle est blanche.
Je peux bien me faire plaisir un petit peu.
En fait, au début, on entendait là. Là, c'était plus de l'autre côté. Du coup, tu l'as vexé, il est parti.
Bah non, t'inquiète pas.
Alors la biche, elle a des atouts de séduction aussi. Est-ce qu'elle déploie
Elle souligne ses jolis yeux.
D'ailleurs, nous allons tout de suite écouter Biche ou ma biche. Pour faire une pause musicale.
Non, la biche, elle se fiche complètement de séduire le mâle. En fait, elle n'a pas du tout besoin de faire d'efforts. Elle a juste ses hormones qui parlent pour elle. Ça brame bien devant nous. Et donc, elle n'a qu'à attendre le mâle. Voilà. Sachant que, donc, elle... Mais c'est bien, du coup, ils sont deux, donc ils se stimulent l'un et l'autre pour bramer un peu plus fort. Donc à la voix, le mâle qui est sur la gauche a beaucoup plus d'hormones que celui de droite, qui a la voix plus aiguë, qui doit être certainement plus jeune. Alors le soir, en fait, pour se placer au bon endroit, il faut avoir le vent, enfin, faut être face à eux et avoir le vent qui vient d'eux vers nous, quoi, pour qu'ils nous sentent moins. Là, ici, la stratégie qu'on a prise, c'est d'être dans un fond de vallée, donc avec une brise qui est latérale. Et donc, comme ils sont en face de nous, notre odeur est dégagée sur la gauche et donc ils ne nous sentent pas. Après, il faut que les femelles aient envie de descendre en fond de vallée pour qu'ils se rapprochent. Tout dépend des femelles, comme dans la vie. Oui, je sais, c'est lourd, mais j'aime bien.
Ça fait plaisir, en fait.
Pour se rendre compte, à peu près, un cerf, ça pèse entre 150 et 200 kilos. Et la femelle, elle va faire à peu près 80 kilos. Donc ça fait quand même une grosse bête. Et ça a besoin de beaucoup manger. Voilà, plus on va vers l'est de l'Europe, plus les cerfs sont gros. Et grand. Voilà. En Espagne, il y a des petits cerfs qui font la taille d'un chevreuil, quoi, qui vont faire 40 à 50 kilos, qui sont vraiment une espèce moins imposante. Ils vont manger donc toute la végétation, les feuilles, les plantes qui sont à leur hauteur. Et donc, ils vont avoir un impact assez fort sur la végétation. C'est pour ça que des grosses populations de cerfs, ça peut être problématique pour la gestion de certaines forêts. Pendant l'hiver, ils vont écorcer les arbres pour manger donc les minéraux qu'il y a dans l'écorce. Donc ils vont tuer les arbres. Ils vont manger les bourgeons, les jeunes rameaux au début du printemps. Donc ils ont vraiment un impact fort sur la végétation. Et ça peut être dans certains endroits vraiment problématique, quoi. Quand il y a des plantations de châtaigniers ou des plantations de gênes résineux, ils aiment beaucoup les jeunes épicéas. Et là, ils peuvent faire vraiment de gros dégâts. Dans nos forêts, comme ils sont moins nombreux, on a des indices de présence qui sont beaucoup plus diffus. Mais si on va sur le nord des Alpes ou si on va sur la région centre, là on peut avoir vraiment l'impression d'avoir des troupeaux imposants. Ils vont tailler les arbres sous forme de bonsaï dès qu'il va y avoir des jeunes pousses. Ils vont manger les jeunes pousses et donc les arbres vont pousser tout tortueux comme des bonsaï. Voilà, ils peuvent vraiment devenir l'ennemi des forestiers.
Prochaine sortie, on va voir les loups.
Allez, on va écouter les loups en janvier quand ils gardent la meute, si tu veux. Oui. Le brame du cerf, c'est vraiment un des rares moments où, bon, là, voilà, on est assez éloigné. Bon, ça nous bouge un petit peu parce qu'on entend les bruits de la nuit, qu'on reconnaît pas, tout ça. Mais ça reste un des rares moments dans la nature où on sent que on est dépassé, quoi. Qu'on n'a pas la force physique, qu'on n'a pas les moyens de se défendre. Et ça remet l'homme à sa place et la nature à sa place, quoi. La nature se remet de beaucoup de choses. Et là, le cerf, lui, il brame, il fait sa vie, il connaît son territoire et il a un cri et une force physique qui nous dépasse. Donc... ça nous remet à notre petite place d'humain. Mais oui, pourquoi pas aller écouter les loups en janvier.
On va, je pense, terminer l'émission. Un mot pour la fin.
Non, c'est beau la nature. La nuit, la pleine lune. C'est notre façon de la découvrir et de l'apprécier. On a la chance en plus d'avoir un été indien. Donc... c'est le moment de profiter, de passer des bons moments et de se retrouver dans des choses simples et qui sont pourtant extraordinaires.
Vous voulez témoigner, dire quelque chose sur... Oui ?
Simplement que... Voilà, moi j'apprécie beaucoup d'accompagner des amis parce que, effectivement, comme le disait Raphaël, la nuit déjà, c'est... une ambiance particulière, et puis le brame du cerf qui se renouvelle chaque année également, je pense que c'est un moment qu'on peut partager et qui nous apporte beaucoup de choses. Voilà.
Donc, vous venez régulièrement écouter le brame du cerf?
Oui, pendant la saison du brame, je viens 3 ou 4 fois, des fois plus. Voilà.
Merci.